Léo Benkel est un développeur expérimenté qui a travaillé dans la Silicon Valley pour des startups ayant été rachetées par des entreprises pesant plusieurs millions de dollars. Fort de ses 10 ans d'expérience à San Francisco, il est venu au Luxembourg créer sa propre société, Pure Lambda. Aujourd'hui, Léo conseille les entrepreneurs afin qu'ils améliorent leurs produits, leurs processus et de manière générale leurs entreprises. Ce qui m'a frappé dans mes conversations avec Léo, c'est cet esprit novateur qu'il insuffle aux entreprises. Ses conseils sont pour le moins déstabilisants, voire contre-intuitif, et le moins que l'on puisse en dire, c'est qu'ils vont à l'encontre de beaucoup de principes de gestion d'entreprise qu'on pourrait prendre pour acquis dans notre bonne vieille Europe. Notre conversation nous amène aussi bien sur les aspects culturels de la vie dans la Silicon Valley que sur la pandémie et ce qu'elle a changé dans notre façon de travailler au quotidien. Léo, bonjour, bienvenue.
Salut Stéphane, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ça va. Il fait beau ici au Luxembourg, donc je suis content.
Si tu t'intéresses au temps qu'il fait, c'est aussi parce que tu as passé une bonne partie de ta vie dans la Silicon Valley.
Ouais, donc moi quand je suis arrivé ici au Luxembourg, j'ai découvert que le ciel, il y avait beaucoup de choses qui tombaient. Des grêlons, de la neige, de la pluie, j'avais pas l'habitude.
Commençons un peu par parler de ton parcours. Tu es français?
Oui.
Et tu as décidé à un moment de partir pour la Silicon Valley. Qu'est-ce qui a décidé ce choix?
Alors, c'est plutôt beaucoup de chance. Il se trouve que quelqu'un m'a présenté un fondateur d'entreprise dans la Silicon Valley et que j'étais en train de chercher mon stage de 4e année, il me semble. Et j'ai dit, ah, bah, ça serait une super opportunité. Alors, je leur ai envoyé un email. Ils m'ont dit, bon, on cherche pas trop de stagiaires. Alors, je les ai suppliés et ils m'ont dit, bon, d'accord, mais si ça marche pas, tu dégages après un mois. Et moi, je devais faire 4 mois de stage. Je me suis dit, bon, bah allez, on va y aller, hein, espérant que je ne doive pas refaire ma 4e année d'école d'ingénieur juste parce qu'ils m'ont viré après un mois. Mais après 2 semaines de boulot, j'ai optimisé un de leurs algorithmes et ils m'ont dit, bon, tu peux rester.
Bon point. Du coup, alors, t'es resté dans cette boîte. Peut-être que tu peux la citer.
Alors, la boîte s'appelait Framehawk et elle a été achetée par Citrix 2 ans après que je l'ai rejoint.
Ok. Pas une petite acquisition du coup. Et c'était une boîte qui était spécialisée dans quoi?
Alors, on a créé un protocole de communication entre un client-serveur pour faire ce qu'on appelle du remote desktop. Donc, c'est ce que Citrix et VMware font où tu contrôles un ordinateur et donc tu vois par exemple ton écran Windows. Et tu le contrôles depuis ton ordinateur local, mais l'ordinateur tourne dans le cloud. Et toi, tu vois l'écran comme si c'était ton ordinateur local, mais en fait, il est à distance. Et donc, c'est très utile dans les grosses entreprises ou, par exemple, dans les banques, ils veulent pas que tu aies quoi que ce soit sur ton ordinateur local. Donc, ton ordinateur de travail est dans le cloud et toi, tu vois juste le retour de l'écran et tu envoies tes inputs. La grosse innovation de Framehawk, c'est qu'on a construit le protocole sur le protocole UDP au lieu de TCP, et ce qui fait qu'on a réussi à maintenir des connexions avec 90% de perte de données, avec des latences qui sont aussi près que possible, parce que le TCP crée du buffer que l'UDP fait pas, donc c'était un protocole assez révolutionnaire.
Ouais, et ça nous place en quelle année à peu près?
Alors ça, c'était dans les années 2010 et quelques, il me semble.
Donc bien loin de la pandémie, parce qu'aujourd'hui, tels outils ont dû avoir un essor considérable.
Ouais, et donc là, maintenant, c'est Citrix qui possède cette technologie. J'ai fait 2 ans chez Citrix après avoir fait 2 ans chez Framehawk. Et c'était assez intéressant parce que chez Framehawk, on n'avait que des experts, on était une petite équipe. Et chez Citrix, c'était une grosse, grosse entreprise, 10 000 employés avec de la politique, etc.
Et du coup, alors, qu'est-ce qui t'a fait partir de chez Citrix?
Alors, j'ai adoré l'équipe pour laquelle je travaillais. J'ai travaillé avec les mêmes personnes pendant 4 ans, du coup, à Framehawk et à Citrix. Et après 2 ans chez Citrix, ils voulaient réorganiser leur organisation et déplacer tous leurs employés en Floride. Et du coup, on leur a dit non merci.
Alors, pourquoi non merci, justement?
Eh bien, parce que là, j'étais en plein centre de San Francisco et que j'avais pas envie de quitter la Silicon Valley, toute l'atmosphère de l'innovation, de fast-paced, etc. Et la Floride ne nous tentait ni à moi, ni à personne dans l'équipe.
On en a une vision un peu fantasmée, forcément, en Europe. On l'a au travers de films, de séries. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Silicon Valley, par exemple? Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans les séries ou c'en est très éloigné?
Alors, c'est très proche de... Moi, j'ai regardé Silicon Valley et il y a beaucoup de choses qui sont trop près de la réalité. mais non, mais c'est ce qui est vraiment super, en fait, c'est que quand tu lis les news dans les magazines tech, que ce soit TechCrunch, VentureBeat, à chaque fois, l'article commence toujours annoncé la semaine précédente à San Francisco. Et toi, tu fais « Ah bah ouais, j'y étais. Je l'ai entendu en personne. » L'annonce ou la keynote, ou tu vois des... T'es toujours au centre des news, en fait, quand tu vois les journalistes qui viennent à la Dreamforce, ou à la Google I.O., ou à la GDC, qui filment et qui disent « Regardez, la salle blindée. » Tu fais « Oh, j'y étais, ça allait. » Et tu rencontres aussi des personnes extraordinaires. J'ai été voir Ben Horowitz en conférence. J'ai pu lui serrer la main à la fin. Les gens sont très abordables. J'ai été prendre un verre avec un ami il y a des années et il m'a dit « Attends, regarde, c'est le fondateur d'Instagram. » Et c'était avant que Facebook les achète. Moi, j'avais aucune idée de qui c'était à l'époque. Donc, on rencontre toujours des gens comme ça. J'ai été aussi... dans les locaux de Dropbox, le fondateur nous a accueilli un petit groupe de 10 pour parler de ce qu'il essayait de faire ici. Il racontait qu'il avait acheté des trottinettes parce que son bureau était très très long, donc il fallait que les employés puissent voyager rapidement d'un bout à l'autre. C'était il y a je sais pas 7-8 ans, donc c'était vraiment le début de Dropbox. Ils étaient une centaine d'employés. Et c'est vachement intéressant de voir toutes ces petites entreprises qui grossissent énormément. Et tu connais toujours quelqu'un qui travaille à Netflix, à Airbnb, à Google.
C'est un milieu qui est stimulant.
Bah oui, et c'est surtout que quand, oui et non, c'est assez étrange en fait parce que. Oui, parce que t'as que des gens qui ont des compétences techniques hors du commun. Quand tu vas prendre un verre, tu rencontres toujours des gens qui parlent d'une nouvelle idée. Tu rencontres des designers, des investisseurs, des ingénieurs. Mais en même temps, c'est très monolithique comme culture parce que toutes les personnes que tu rencontres, c'est tu fais quoi? Ah, je suis dans la tech. Il y a pas d'autre réponse que ça. Il y a rien d'autre.
Donc, après Citrix, tu es retourné dans une boîte qui avait une plus petite taille ou...
Alors, après Citrix, là, c'était un peu la course parce que j'étais en visa de travail. Et avec un visa de travail, si tu n'as pas de contrat pendant 10 jours, tu es déporté. Donc, j'avais déjà commencé à chercher un emploi avant qu'il termine notre contrat parce qu'il nous l'avait dit que ça allait arriver, le déménagement en Floride. Donc, j'ai eu quelques mois pour... c'était pas non plus... J'avais pas que 10 jours. Et j'ai trouvé Sumtac, qui est une entreprise qui fait une marketplace qui connecte les gens avec des professionnels, que ce soit avocats, plombiers, électriciens, profs de maths. Donc, c'est un peu le même principe que la gig economy, mais c'est des gens qui ont une expérience professionnelle. Donc, c'est pas juste aller chercher un café. Et cette entreprise-là, quand je l'ai rejoint, on était une centaine, il me semble. Quand je l'ai quitté 2 ans après, on était presque 600, il me semble. Et donc, j'ai eu la chance de voir comment est-ce qu'un déménagement de bureau se passe, comment est-ce que devenir une licorne se passe. Parce que maintenant, avant la pandémie, elle était évaluée à plus de 1 milliard de dollars. J'ai pas vraiment suivi là ce qui s'est passé. J'ai vu qu'ils avaient viré pas mal de personnes. Je crois qu'ils ont fait un layoff de 200 personnes au début de la pandémie parce qu'évidemment, les électriciens, plombiers, etc., c'était plus vraiment en demande. Mais là, j'ai cru voir qu'ils sont en train de récupérer et je suis content parce que du coup, j'ai des actions de mon emploi. Donc, ça me fait plaisir qu'ils récupèrent.
Et sur un point de vue de l'emploi, donc tu mentionnes par exemple le fait qu'on donne des actions aux employés. Est-ce que c'est simple de faire le bon choix pour un employé?
Alors, dans la Silicon Valley, et c'est en train de se propager au reste du monde, c'est l'employé qui conduit l'entretien d'embauche. c'est pas l'accompagner. Parce que en moyenne, il y a, je sais pas, je dirais une quinzaine d'emplois pour un ingénieur. Et les 14 autres vont jamais trouver personne. Et du coup, il y a, j'étais plus stressé de faire un entretien d'embauche pour mon entreprise que de passer un entretien d'embauche en tant que candidat. Parce qu'en tant que candidat, tu demandes ce que tu veux. Tu fais, est-ce que vous avez le petit-déj? Est-ce que vous avez le lunch? Est-ce que vous avez le dîner? Est-ce que vous avez le ping-pong? Est-ce que vous avez le travail à la maison? Est-ce qu'il y a des semaines de vacances avec l'entreprise? C'est vraiment, tu fais ton choix. Et donc, c'est intéressant de voir cette demande qui devient de plus en plus importante, à quel point la demande en emploi grossit extrêmement plus rapidement que les gens qui se forment.
J'imagine, et ces types d'emplois qui sont monnaie courante, on va dire, la Silicon Valley, aujourd'hui, c'est que des développeurs?
Bah, c'est tout ce qui est product development, donc c'est product manager, c'est design, c'est engineer, c'est tout ce qui fait le produit, et c'est vraiment la star de l'entreprise. Toute l'entreprise est faite pour que ces équipes-là soient le mieux possible. Donc la vente, le marketing, etc., c'est remplaçable. Ce qui n'est pas remplaçable, c'est l'équipe d'ingénieurs qui ont la connaissance du produit.
Ça a un impact, j'imagine, sur le management?
Alors, il y a vachement de management qui sont plus modernes. Même à Google, ils ont que 4 niveaux, par exemple. Et donc, c'est plus au niveau des responsabilités que du job title ou que de la hiérarchie. C'est des objectifs et des missions. C'est mesuré sur le résultat plutôt que sur le nombre d'heures. C'est vraiment des techniques de management modernes qui mettent l'employé aux commandes de sa carrière. Pour que sa carrière serve l'entreprise, certes, mais pour que les deux soient alignés, pas l'un contre l'autre. Donc, le manager va demander ce que tu as envie d'apprendre le mois prochain, sur quoi tu as envie de travailler. Et le leadership va dire, voici l'objectif de l'entreprise. Comment est-ce que toi, avec ton équipe ou en tant qu'individu, tu peux affecter ce chiffre-là? Et donc, dans les entreprises qui fonctionnent, donc tout le monde ne fait pas ça évidemment, hein, mais dans celles qui fonctionnent, c'est vraiment donne-moi ce que tu veux accomplir et fais-le. Comme ça te met vraiment au pouvoir, ça te donne cette responsabilité. C'est moi qui ai eu l'idée de faire ça, donc maintenant il faut que je prouve que je puisse le faire. Donc, ça rend vraiment les employés plus loyaux à l'entreprise, plus productifs. Tu as vraiment envie de prouver ce que tu sais faire. Donc et t'as pas de politique ou de réunion toute la journée pour essayer d'argumenter qui doit faire quoi, rendre des comptes, micromanager combien d'heures tu passes devant l'écran. C'est vraiment, si t'as ton boulot qui est terminé, après, tu fais ce que tu veux, quoi.
J'en ai entendu pas mal parler au travers de podcasts, mais pour des plus grosses boîtes, donc c'est à voir aussi comment ça se passe dans les plus petites, mais typiquement, j'avais entendu beaucoup parler du management et du leadership à Facebook, où en fait, quand il y a une idée, quand il y a quelque chose à développer, en fait, un manager doit recruter son équipe et donner envie à des gens de travailler pour lui. Et bah, s'il l'a pas, il fera jamais son projet. Est-ce que t'as pu avoir l'expérience de ça, ou c'est vraiment réservé aux très grosses structures de type Facebook?
Alors moi, j'ai pas eu cette expérience-là vraiment. Par contre, il y a des moments dans l'année où c'est vrai. Par exemple, à Samta, qui avait la semaine hackathon, où là, c'est vraiment chacun pitch son idée, recrute son équipe et montre un projet qui pourra bénéficier à l'entreprise. Google fait aussi beaucoup ça. Moi, j'ai jamais travaillé pour Google, mais j'ai évidemment des amis, etc., qui m'ont raconté. Donc, c'est vraiment ponctuel dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et donc, il n'y a pas eu cette système d'embauche. Mais c'est vrai que étant donné que la hiérarchie est très plate, si tu veux aller te plaindre de ton manager au directeur des ressources humaines, tu lui envoies un message et tu peux lui parler, quoi. Ou tu peux même aller parler au CTO, tu lui dis tu veux aller prendre un verre demain, il va te dire oui en général. Peut-être pas demain parce que son calendrier est plutôt rempli, mais il va te dire bah vas-y, mets quelque chose dans mon calendrier la semaine prochaine.
Ok. Donc un leadership ou en tout cas une hiérarchie, je ne sais pas si vu qu'elle est plate, flat. On parle encore de hiérarchie, mais tout le monde est très accessible alors.
C'est ça, et c'est aussi vraiment une question de comment on dit, d'être approchable. C'est que si tu as un truc à dire, du moment que c'est un critique qui soit constructif, tu vas être plus... La bêtise, c'est de ne pas en parler. You'll be in trouble if you hide it. Like, si tu dis, bah, ça c'est une mauvaise idée, mais que tu le dis que après, tu dis, bah ouais, bah, je savais que moi c'était une mauvaise idée, vous êtes con d'avoir fait ça. Tu vas sûrement te faire virer parce que tu ne l'as pas dit plus tôt. Si ton manager a une mauvaise idée, tu lui dis quand il l'énonce, pas quand c'est fait. Et si ton équipe est bien faite, moi, c'est, enfin, j'ai eu la chance de travailler dans ce genre d'environnement où il n'y a pas de barrière de cette idée que ton manager est au-dessus de toi et qu'il a raison, ça n'existe pas. La culture est que les gens que tu embauches, pour embaucher les bonnes personnes, il faut que la personne soit plus intelligente que toi. Et après, je crois que c'est même Steve Jobs qui a dit ça, c'est si t'embauches des gens intelligents, laisse-les faire leur boulot, parce que sinon, ça sert à rien d'embaucher des gens intelligents.
Parce que culturellement, je dois dire, on ne trouve pas forcément ça en Europe. Et donc, je vais prendre un exemple récent. J'ai lu donc les employés de Apple, certains employés en tout cas, on ne veut pas revenir au bureau, c'est monnaie courante en ce moment, on voit beaucoup de cas comme cela. Ils ont fait une lettre ouverte avec des signataires chez Apple, et ils ont monté un groupe sur Slack où ils sont plus de 2000, et c'est quelque chose qui pourrait être super surprenant en Europe de voir quelque chose comme ça, parce que on aurait peut-être peur de se prendre des coups de bâton.
Mais c'est intéressant parce que c'est aux États-Unis, ils veulent pas de union. C'est c'est comme la CGT, c'est les groupes d'ouvriers là. Il y a même des entreprises qui filtrent et qui disent non, tu fais partie d'une union, je t'embauche pas. Il y a eu plein d'histoires d'ailleurs sur Amazon avec les ouvriers qui sont dotés d'union, etc. et qui se font virer pour des raisons autres, mais on sait très bien pourquoi c'est. Et là, dans les entreprises tech, donc même par exemple, il y a eu une pétition faite à Google pour pas qu'ils acceptent un contrat militaire. Et pareil, là, ce que tu racontes chez Apple. Donc, par contre, les ingénieurs se font des unions, mais pas officielles. Et ça, c'est accepté aux États-Unis. Par contre, en France, où il y a des manifestations tout le temps pour les cheminots, les taxis, etc., les ingénieurs, eux, c'est mal vu s'ils se mettent ensemble. Alors, c'est assez intéressant, l'opposition.
Quelle autre différence tu peux voir entre ce que tu as connu à la Silicon Valley et l'Europe, d'un point de vue, par exemple, de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est comme on le dit ou les idées, ça va très vite, on a une idée, le lendemain, on fait sa start-up, ça marche pas, comment ça se passe?
Alors oui, il y a la notion de fail fast. Donc l'idée, c'est de t'y vas à 100% et t'essaies que ça réussisse ou ça crache le plus vite possible pour pas perdre de temps. Et si ça casse, bon, bah, tu réessayes autre chose ou tu fais autre chose et t'apprends tes erreurs. Donc, t'as des entreprises, elles durent 3 mois, et après 3 mois, tu dis, bon, bah, ça va marcher, tant pis. Et j'ai, de mon expérience récente en Europe, j'ai remarqué que il n'y a pas cette notion de fail fast parce que on veut protéger l'emploi, ce qui est très bien, hein, parce que aux États-Unis, c'est un peu la guerre, quoi. C'est l'anarchie sur ce point de vue-là. Mais les effets négatifs de ce système, c'est que, par exemple, il y a des entreprises qui reçoivent des bénéfices de l'État et qui les maintient en life support plus longtemps que ce qu'ils auraient survécu dans un marché libre aux États-Unis, par exemple. Mmh. Alors après, c'est pas toujours négatif, hein. Des fois, il y a des idées qui mettent un peu plus de temps à se mettre en place et ensuite, ils réussissent. Mais en moyenne, ça crée une vitesse de rafraîchissement, une sélection naturelle plus lente. Du coup, un entrepreneur qui a peut-être 4 idées, il va tester les 4 à San Francisco, alors que peut-être qu'en Europe, il aura le temps seulement d'en tester 2 parce que ça aura raté après 2 ans au lieu de rater après 6 mois. Donc, c'est une culture différente.
On n'a pas forcément en Europe la culture de l'échec et mettre en avant que on apprend plus de ses échecs des fois que de ses réussites.
Ouais, exactement. Il y a You never fail. You either succeed or you learn. Il y a pas d'échec. C'est soit tu réussis, soit t'apprends. Et aux États-Unis, les entrepreneurs qui ont raté, c'est ceux qui vont être le plus payés après, parce que ça sera les managers de génie qui savent ce qui marche pas. Alors que si t'as réussi du premier coup, ben t'as juste fait ce que tu connaissais déjà. T'as rien appris de nouveau. Alors que quand tu vois, il y a plein de meet-up de gens qui ont raté leur start-up. Il y a plein de gens qui sont des consultants maintenant qui vont dans les entreprises. Ils font, bah, regarde, ça, c'est ce que j'ai fait, ça a pas marché. etc. Là, moi, quand j'ai créé mon entreprise au Luxembourg, c'était assez intéressant de voir que j'ai dû signer un papier chez le notaire comme quoi j'avais jamais bankrupt. Et pour moi, c'était un petit peu un choc culturel parce que ça aurait été génial si j'avais déjà bankrupt. Ça veut dire que j'ai déjà appris de mes erreurs, déjà testé des choses.
Ah, c'est assez fantastique aussi de voir cette opposition-là. Elle est quand même assez forte et ça fait une grosse, grosse différence culturelle. Mais je m'interroge justement sur cette culture de l'échec parce que pour lancer sa start-up, on n'y va pas les mains vides. Soit on a des fonds, des capitaux propres, soit on arrive à avoir une levée de fonds avec des VC. Donc comment un entrepreneur peut échouer, je ne sais pas, 4 fois de suite ou 3 fois de suite avant d'avoir le succès et continuer peut-être à lever des capitaux pour tenter des idées?
Bah alors l'autre avantage, c'est qu'à San Francisco, les ingénieurs, ils sont payés entre 100 et 500 000, peut-être même 1 million par an. Du coup, tu peux te prendre un petit job part-time d'ingénieur, ça te paye 150 000 par an et tu as la moitié de ta semaine pour travailler sur ta startup. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas vraiment besoin de lever de fonds au début. Et tout le process de product market fit, pour arriver à un point où tu trouves des clients qui veulent payer pour la solution de ton problème, tu peux le faire presque sans argent de nos jours, avec les plateformes no-code, avec si tu es un ingénieur toi-même, etc. Tu peux faire un petit prototype, faire un petit peu de marketing gratuit sur LinkedIn et voir si ça marche. Et dans ce cas, et après, si ça marche, c'est plus facile de lever des fonds. Et quand on parle d'échec, ça peut être un échec même avant. J'ai pas trouvé le product market fit. Je m'étais fixé un an pour le trouver. J'y suis pas arrivé. Voilà, j'ai arrêté. Et donc ça, c'est une expérience. C'est vraiment se fixer des objectifs et dire bon bah j'ai passé autant de temps, j'ai dépensé autant d'argent. C'est la fin de cette expérience.
L'autre limite à ça aussi que je vois, c'est que comme tu l'as dit, c'est difficile de recruter. Comment des startups arrivent à fleurir comme ça alors que c'est si difficile de recruter?
Bah alors il y a ce changement de direction récemment. Ah, je dirais il y a 20 ans, c'est les grosses entreprises qui te promettent la stabilité et tu peux travailler chez eux toute ta vie. Mais de nos jours, je trouve qu'il y a vachement plus de changements. Les gens sont plus engagés dans les problématiques du monde. Et ils veulent travailler pour des entreprises qui résout les problèmes qui les touchent. Donc, d'embaucher maintenant, c'est aussi une question de marketing, de la même façon qu'on fait du marketing pour attirer des utilisateurs, on fait du marketing pour attirer des employés. Et donc, c'est parler de la problématique qu'on résout. Si on veut, je sais pas, réduire les émissions carbone, on va parler de ça à des forums, on va faire des blogs, des podcasts qui en parlent. Et c'est les ingénieurs qui vont venir et dire, ben, moi, je suis un talent. Il y a 15 entreprises qui veulent m'embaucher, mais j'ai envie de t'aider à résoudre ce problème.
Ok. Pourtant, donc, en fin de compte, tu as quitté ce milieu. Alors, quelles sont les raisons qui ont fait que finalement, tu ne sois pas resté là-bas?
Alors, pour moi, après 10 ans, j'ai vu la ville vraiment évoluer. Et c'est pendant la pandémie, il y a énormément de gens qui sont partis. Tous mes amis sont partis dans les villes voisines, Denver, Portland, Austin. Et les raisons pour ça, c'est le coût de la vie a augmenté. Parce que évidemment, quand la moitié de la population est payée 500 000 par an, le loyer, il explose. Donc les gens se disent, bah attends, maintenant que je peux travailler à distance, pourquoi est-ce que je paye 10 000 de loyer par mois pour aller, pour me taper une heure de voyage dans le bus pour aller au bureau, alors que je pourrais être à Phoenix, où le loyer c'est $500, et faire le même travail. Donc il y a énormément de gens qui sont partis pour cette raison. Après, il y a des raisons de climat pour lesquelles moi je suis parti. Les incendies chaque année sont devenus de pire en pire. Là, je sais pas si tu as vu les infos, il y a le Californie qui a perdu 60 quintillions de litres d'eau, je sais plus les chiffres, c'était impressionnant. T'as les rivières qui sont asséchées, ils ont dû transporter les saumons en train, en citerne, parce qu'il y a eu les rivières, il n'y a eu plus d'eau. Et du coup, cette année, les incendies vont être encore pires que l'année précédente. Et déjà l'année précédente, il a plu des cendres pendant 3 jours. Donc moi, au moment de la pandémie, quand elle a commencé, j'avais déjà des masques P100, etc., les N97, parce que je les avais pour les cendres.
Ouais.
Donc, j'étais déjà équipé. Au-delà de ça, il y a aussi la montée des eaux, il y a les tremblements de terre. Et après, sur un contexte plus large aux États-Unis, il y avait évidemment la politique de Trump, il y avait la polarisation des gens où maintenant il n'y a plus de centre, où tout le monde est dans les extrêmes, la brutalité policière, les shootings dans les écoles. J'ai aussi un diabète de type 1 et il n'y a pas d'assurance santé aux États-Unis, donc si jamais tu te fais virer pour une raison ou une autre, ben, moi je serais mort parce que j'ai plus d'insuline. Donc j'avais tous ces stress qui étaient dans le fond de ma tête tout le temps. Moi j'ai jamais vraiment eu de problème, hein, à part quand il pleuvait des cendres, j'avais des genres d'allergies dans les sinus, mais bon, ça allait. Mais bon, moi j'ai mon background, c'est vraiment dans tout ce qui est data engineering, etc. Donc je suis quelqu'un qui suit les données. Et quand je vois que d'année en année c'est de pire en pire, je me suis dit qu'à un moment ou un autre ça allait vraiment être pire. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je rentre ou que je quitte les États-Unis. Ma famille est en France, donc les raisons pour lesquelles je suis retourné en Europe, c'est évidemment pour être plus près que ma famille. Après, j'ai regardé un peu les pays pour lesquels je pouvais aller. Donc j'ai regardé la Suisse au début parce que j'avais vraiment envie dans un endroit plus calme où il n'y a plus d'attentats, plus d'attaques à main armée. Donc je me suis dit, la Suisse, ça a l'air calme. Mais ils n'ont pas d'assurance santé, d'après ce que j'ai lu. Donc, je me suis dit, bon, non. Après, j'ai regardé les Pays-Bas et le Danemark parce qu'ils sont toujours en tête des pays les plus heureux. Alors, je me suis dit, ça peut être cool. Mais après, je me suis dit, mais attends, ils sont quand même près de l'eau. Et avec la montée de l'eau, j'ai pas envie de me retrouver dans un autre cataclysme climatique. J'avais regardé la France et au moment où j'étais en train de regarder, il y a la personne qui s'est fait égorger par un extrémiste, un professeur. Il y a des grèves incessantes. Et je me suis dit, bon, j'ai pas trop envie de me retrouver dans un autre contexte politique comme ça. Et après, j'ai vu le Luxembourg, je me suis dit, tiens, j'en entends jamais parler, ça a l'air mignon ce petit pays. Et j'ai regardé, et après je me suis rappelé que j'en avais entendu parler, notamment dans le contexte du minage d'astéroïdes. C'est eux qui ont lancé les premières entreprises pour construire des satellites. Ils ont un ministre dédié à l'innovation. Je me suis dit, ça a l'air bien. Et il y a aussi le fait que je voulais créer mon entreprise et du coup je voulais être dans un endroit qui ne me verrouillerait pas dans un marché local. Et au Luxembourg, il y a le Parlement européen, ça, tout le monde parle 4, 5, 6 langues, c'est très proche de tous les tech hubs, Berlin, Amsterdam, Bruxelles, Paris. Donc je me suis dit que c'était une bonne position pour baser une entreprise.
Ok, alors c'est beaucoup de choix personnels, mais j'imaginais aussi que d'une certaine manière, au niveau de la Silicon Valley, il y avait l'âge qui pouvait jouer. Peut-être qu'il y a un temps à faire à la Silicon Valley avant de décider de partir ailleurs. Ça pourrait être 10 ans, ça pourrait être 20 ans, j'en sais rien. Est-ce que c'est une tendance que tu partages avec d'autres, de dire la Silicon Valley, maintenant, c'est...
Pas tant que ça, hein, parce que tu serais surpris, mais à San Francisco et dans la Californie, c'est assez intéressant de voir comment les gens se comportent quand ils... commence à, je sais pas, le mot c'est vieillir, mais ça sonne pas bien, c'est quand ils prennent de l'âge, je sais pas, quand ils passent leurs années. Mais en France, on se dit tout de suite, bon, bah, je peux plus faire ça parce que maintenant j'ai 40 ans. Ou en Europe, c'est très, bon, bah, je rentre dans cette case parce que maintenant j'ai 40 ans, maintenant j'ai 50 ans, maintenant j'ai 60 ans, c'est cette case-là dans laquelle je suis. Alors qu'en Californie, t'as des gens qui ont 50 ans, qui vont faire du surf avant d'aller au travail, ils vont en boîte de nuit et ils font la fête toute la nuit, après ils fument de la weed le soir avec leurs collègues. Il n'y a pas vraiment cette notion d'âge. T'as l'impression que les gens ne vieillissent pas aux États-Unis, enfin en Californie, c'est tout le monde a 20 ans. Alors pour moi qui viens de France, je commençais à me sentir vieux, les gueules de bois qui durent 3 jours, je me suis dit je peux pas continuer comme ça, mais... Tous les gens la plupart des gens que je connais à San Francisco, peu importe leur âge, ils vont faire la fête. Quand tu vas dans une boîte de nuit, t'as des gens qui vont de 21 à 60 ans qui dansent sur le dance floor. Et donc, c'est vraiment personnel. Il y a des gens qui adorent cet esprit vivant, hippie, flower power, tout est possible et qui veulent ça pour le reste de leur vie. Mais moi, j'avais vraiment envie de me retrouver dans un endroit un peu moins excitant, plus calme. Et du coup, là, Luxembourg, c'est très bien. Les news, c'est seulement les embouteillages de la veille. Et ça me convient parfaitement.
En effet. Et donc, tu es venu ici et tu as créé ta boîte.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler justement un peu?
Oui, alors, donc j'ai créé Pure Lambda. C'est un peu un jeu de mots pour les data engineers. Donc, ceux qui s'y connaissent devineront. En gros, j'aide les fondateurs d'entreprises à construire leurs produits. Donc, être un entrepreneur, c'est difficile. Ils font face à des tonnes de challenges du point de vue de la technologie, les pratiques et les options pour pour construire quelque chose change tout le temps. Les recommandations de management changent tout le temps. Il faut garder sa vision en tête tout en motivant son équipe. Donc, il y a énormément de choses à accomplir quand on est un entrepreneur. Et donc, avec Pure Lambda, j'utilise mes 10 ans d'expérience dans la Silicon Valley pour conseiller les entrepreneurs dans tout ce qui est en rapport avec le développement de leur logiciel, leur technique de management, etc. Et donc, quand je travaille avec des fondateurs, je les aide à se sentir un peu moins stressés et à choisir la meilleure action à prendre. Quand ils ont un challenge, ils viennent me voir et on résout ensemble ce problème pour avancer.
Ok, une sorte de coach pour entrepreneur.
Je dirais plus conseiller, c'est un peu comme le docteur de la startup. Tu viens me voir, on parle de ton problème pendant une heure, on établit un plan pour le futur et ensuite c'est à toi d'aller l'implémenter. C'est vraiment, je veux rendre les entrepreneurs autonomes. Mon but, c'est qu'ils soient indépendants et qu'ils puissent réussir et je partage mon expérience avec eux. Donc, que ce soit du brainstorming, de la recherche de solutions, des conseils techniques. J'ai aussi un diplôme de l'Institut pour le futur de Palo Alto et un diplôme en enterprise architecture. Donc, c'est aussi tout ce qui est mise en place de processus pour automatiser les procédés de management. Par exemple, les gens qui n'arrivent pas à embaucher, on peut travailler ensemble sur comment rendre l'entreprise plus attirante. Les gens qui veulent construire un nouveau produit, mais qui ne savent pas quelle technologie est la bonne technologie au jour d'aujourd'hui, avec les technologies qui évoluent très rapidement. Les entreprises qui essayent d'arriver à product market fit, qui veulent construire un prototype mais qui savent pas par quoi commencer, les entreprises qui viennent d'avoir des fonds et qui disent bon bah j'ai plein de sous, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc moi je sais vraiment dans tout ce qui est développement du produit, la vente, les avocats, etc. C'est pas mon domaine, mais vraiment le produit, les ingénieurs, les designers, comment est-ce qu'on les rend heureux, comment est-ce qu'on les rend efficaces et productifs.
Ok, c'est des compétences qu'on retrouve parfois associées à des VC.
Ouais. Et donc, je travaille aussi avec les fonds d'investissement. Donc, je les aide à faire du management de risque. Donc, quand quelqu'un vient pitcher leurs idées et qu'ils disent « On a une intelligence artificielle qui fait le café », je peux aller lire le code et dire au fonds d'investissement « Faites attention, parce que ce n'est pas tout à fait vrai ». Et aussi, quand le fonds a ce portfolio d'entreprises, leur but, c'est qu'elles soient toutes le plus successful possible. Et donc, je peux aller voir celles qui le sont moins, et essayer de voir quel est le problème qui les bloque au jour d'aujourd'hui et les débloquer. Donc, je travaille beaucoup avec les fonds d'investissement aussi, avec tout ce qui est accélérateur, incubateur. Je travaille notamment avec Founder Institute, avec Loyal VC, avec l'Université du Luxembourg dans le programme d'entrepreneurs et d'innovation.
J'avais entendu parler de ça, par exemple, pour Google Venture, qui a sorti un livre sur leur méthodologie Sprint.
Ouais.
Où là, c'était comment décider d'une idée et comment la mettre en œuvre en très peu de temps pour voir si elle était bonne ou achetée. Justement, est-ce que du fait que tu transportes une culture américaine en Europe et que tu conseilles des sociétés européennes, est-ce que pour eux, ça ne fait pas un choc culturel quand même assez important, les conseils que tu leur apportes ?
Surtout quand je leur dis « non, il n'y a pas besoin de manager ». Des fois, ils me disent, mais si, mais moi, je veux pouvoir voir que mes employés travaillent. Je fais, mais t'as embauché des employés qui veulent travailler ici, sinon tu les aurais pas embauchés, donc fais-leur confiance. C'est un peu comme quand tu enfantises quelqu'un, tu sais, tu lui fais tout et après tu lui cries dessus parce qu'il est pas autonome. Juste laisse la personne faire son boulot, tu vas être surpris. Et de la même façon aussi, c'est peut-être... Le premier réflexe que les entrepreneurs ont en général, c'est bon, je vais aller embaucher une entreprise en Inde pour qu'ils me fassent un prototype et ça va me coûter 80 000 dollars. Je me dis, mais attends, regarde, il y a plein de plateformes no code, il y a plein de façons de faire un prototype qui va te coûter moins de 1 000 euros. et donc, il y a plusieurs fois où j'ai fait économiser des dizaines de milliers d'euros à plusieurs entrepreneurs qui m'ont dit, ah bah oui, ça marche, maintenant j'ai une communauté de 200 personnes qui vont devenir mes futurs clients, ils m'aident à développer le produit. Tu restes sur le product market fit tout en ajoutant des features, parce que les features que tu ajoutes, c'est les features que tes utilisateurs te disent d'ajouter. Donc, tu prends pas d'avance sur l'utilisateur, c'est l'utilisateur qui te pousse dans la bonne direction.
Est-ce que tu vois beaucoup de ces biais culturels qui sont des freins pour les entreprises européennes ?
C'est pas vraiment des freins, c'est plus de la... que les gens, ils savent pas, en fait. Quand je leur dis et que je leur explique... La plupart sont très réceptifs. Il y a personne qui m'a dit non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ils me disent bah ouais, ça a du sens en fait. Et ils essayent et ça marche. Donc c'est plus de l'éducation plutôt que vraiment de la où je dois forcer les gens. C'est fais-moi confiance, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas du tout ça. C'est plus regarde, essayons de suivre ensemble les buts de chaque agent qui maintient ton entreprise. Donc tu as tous ces employés qui ont tous des buts personnels. Comment est-ce que tu fais pour implémenter des règles simples qui fait que tout le monde s'aligne dans la même direction et travaille pour résoudre ce problème et aider tes clients? Et au final, les gens réalisent que ça a beaucoup de sens et que quand ils essayent, ça marche.
J'imagine qu'il y a beaucoup d'exemples qui ne posent pas problème, en tout cas culturellement. Par contre, il y a des choses que j'ai pu lire qui pourraient être totalement contre-intuitives. Notamment, on n'essaye pas plutôt en Europe de préserver le temps de travail de chaque employé au maximum. Je m'explique. Par exemple, on leur fait faire des tâches, je sais pas, si remplir sa timesheet, ça prend beaucoup de temps, c'est pas grave. Alors que c'est un temps qui est perdu finalement pour l'entreprise. De la même manière, essayer de gérer les employés à atteindre un certain but, et quand ils ont atteint un certain but, je sais pas si tu leur as fait un contrat à 40 heures par semaine ou à 35 heures par semaine selon le pays, et que tu leur dis ton but c'est d'arriver à faire ça et que le gars le fait en deux jours, en Europe, culturellement, c'est pas, enfin en tout cas en France, Luxembourg, c'est pas admis que la personne puisse passer les trois autres jours de la semaine à ne rien faire.
Ouais, c'est vrai, il y a cette culture de mesurer le temps au lieu de mesurer les résultats. Et j'ai vu que ça a un peu changé avec le Covid, parce que maintenant qu'on peut plus être derrière l'épaule de l'ingénieur à dire « Mais attends, là, tu es sur Facebook, t'es pas en train d'écrire du code, là, tu fais quoi ?» Et les gens font plus confiance maintenant. Ils se disent « Bon, bah voilà la tâche que j'ai donnée à l'employé, il a fait la tâche avant la deadline, c'est pour ça que je le paye, c'est pas pour passer 40 heures dessus. » Il y a Siemens qui a rendu leur rapport sur le travail remote au milieu de la quarantaine, vers septembre de l'année dernière, il me semble. Et leur conclusion, c'était « Si tu peux pas faire confiance à tes employés, tu as un problème d'embauche. » Et du coup, c'est vraiment ça. C'est si t'embauches sans aucun filtre, que tu juste pour avoir des gens pour pisser du code, évidemment, tu vas avoir des problèmes parce que tu vas les traiter comme des ouvriers, quoi. Alors que les ingénieurs, c'est un peu plus que juste des ouvriers. En tant qu'ingénieur, on ne fait pas que écrire du code. Il y a aussi de résoudre des puzzles, résoudre des challenges, faire de l'architecture, être confronté à des problèmes et les résoudre. Donc, c'est avoir un environnement de travail qui soit motivant et inspirant et embaucher ce type de personnes qui veulent être inspirées et veulent produire des résultats. C'est vraiment là où le travail se fait. Et on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que quand tu embauches des gens qui leur but dans la vie, c'est de résoudre le même problème que tu es en train de résoudre, par exemple réduire l'émission carbone ou planter des arbres, etc. Si c'est la passion de la personne, t'as pas besoin de mesurer combien d'heures ils vont travailler sur le projet, ils vont le faire d'eux-mêmes et ils vont se donner à l'entreprise, parce que l'entreprise va avoir des buts alignés avec la personne.
Il y a aussi un côté alors c'est vrai pour la France, je ne connais pas l'ensemble du paysage européen, mais il y a encore une forte hiérarchie dans la plupart des sociétés françaises. Alors je ne sais pas si chez les entrepreneurs c'est quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui est culturel dû à notre éducation, mais ce qu'on regarde c'est que, tu l'as dit, les employés sont peut-être infantilisés et de même ils ne vont pas prendre des décisions en autonomie et vont toujours s'appuyer sur il faut que j'ai la validation de ma hiérarchie.
Ouais, c'est ça, c'est la peur de parler, ce qu'on disait tout à l'heure, de dire ça c'est une mauvaise idée. Vu que la hiérarchie est très forte, y a, c'est pas autorisé. Il y a des exemples partout dans les dernières années. J'ai lu un livre où il racontait il y a un avion qui était sur le. Il y a un des réacteurs qui s'est éteint et le capitaine il disait non. On va tirer, ça va marcher. Bon, bah, l'avion s'est écrasé, tout le monde est mort. Mais si les stewards, les employés avaient pu dire non, c'est pas une bonne idée, non, on atterrit maintenant, on ne pousse pas notre chance, bah, peut-être que ce serait pas arrivé. De la même façon, quand il y a plus de danger au niveau des répercussions de la hiérarchie, de donner une mauvaise idée que de se taire. Du coup, les gens se taisent. Et donc, c'est récompenser l'erreur, c'est vraiment une chose qu'il faut faire. Il y a des entreprises qui te donnent un bonus si tu as fait des erreurs. Parce que ça veut dire que tu as tenté des choses.
Ouais. Et ça, pour le coup, c'est novateur dans les pratiques, en tout cas pour l'Europe. Je ne sais pas si c'est encore très répandu.
Pour filtrer aussi les employés, il y a Zappos, il me semble, la compagnie de chaussures, là. Et ils ont une politique d'embauche pour améliorer leurs employés. Comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est à l'embauche. Si tu pars pendant le premier mois, ils te donnent 4 000 $. Du coup, les seuls gens qui restent, c'est ceux qui ont dit « Non, non, je préfère travailler ici plutôt que d'avoir 4 000 $ maintenant. Mmh. » Et du coup, tu as beaucoup plus de... Et soit c'est une règle toute simple. C'est tout qu'on va faire. Et du coup, ils ont des ingénieurs qui sont motivés à travailler pour eux.
Ouais, mais c'est totalement contre-intuitif de base. Tout le monde dit « Ah ouais, mais alors dans ce cas, autant postuler chez eux et je repars avec 4 000 $. » Donc, c'est vrai que ça coule pas de source de se dire que les employés vont rester.
Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que parce qu'il y a cette règle-là, évidemment, leur but, c'est de ne pas perdre d'argent. Du coup, ça pousse l'équipe de recrutement à être très, très, très pointue parce que s'ils ratent, ils perdent 4 000 $. Du coup, non seulement ça permet de filtrer et de renvoyer les gens qui ne sont pas bons pour l'entreprise, mais ça permet à l'équipe d'embauche d'être encore plus performante parce qu'ils ne veulent pas perdre d'argent. Du coup, je crois qu'il n'y a que 2% des gens qui prennent cette offre. Donc, ça veut dire que l'équipe de recrutement est vraiment au point. Ils ont vraiment huilé leur système de filtration pour qu'il n'y ait que les gens qui veulent travailler ici qui soient acceptés.
Ouais. Alors, on a évoqué la pandémie. Et la pandémie, ça a été un gros accélérateur culturel, en tout cas d'évolution culturelle. Au début de la pandémie, tout le monde disait vivement qu'on retourne au bureau. Et à la fin de la pandémie, tout le monde dit je reste à la maison. Donc, c'est une tendance qui se serait peut-être faite sur 10, 15 ans. Et finalement, là, en un an et demi, il y a eu un énorme changement de la part des gens et de leur comportement et peut-être de la vision qu'ils avaient de leur emploi.
Ouais, et alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose que tout le monde voulait depuis des années en tant qu'employé. Et ce qu'ils voulaient le plus, c'est en général les gens qui sont introvertes. Et en général, les gens qui sont introvertes, ils veulent pas hausser la voix, etc. Donc quand leur manager leur dit non, on travaille dans le bureau, ben ils vont dire ok. Du coup, on a eu la dictature des extrovertes depuis des années. Ouais. Et là, cette pandémie a vraiment permis aux introvertes d'avoir un argument et dire « Ah, regarde, ça marche
!» Exactement. C'est peut-être plus facile aux États-Unis d'autoriser du travail en remote, j'imagine. J'imagine que les taxes, c'est sur le pays. Alors qu'en Europe, c'est plusieurs petits pays qui ont des taxes différentes. Et en fait, aujourd'hui, si un travailleur voulait être remote, mais pas forcément de son domicile, pouvoir se déplacer un peu librement sur la planète, ce serait pas quelque chose de si simple à faire. Au point de vue des taxes...
Aux États-Unis, il y a des entreprises qui t'interdisent de travailler dans certains États, parce que tu as aussi des impôts au niveau de l'État. Et donc... Par exemple, il y a certaines entreprises qui vont dire non, tu peux pas travailler, je sais pas, dans l'État de l'Ohio parce qu'on n'a pas de bureau là-bas et on n'a pas envie de remplir des papiers d'impôts juste pour toi dans cet État. Et du coup, ils vont te dire voilà, ça c'est la liste des États dans lesquels on est basé et tu peux travailler dans l'un de ceux-là. Après, c'est des entreprises qui existaient déjà, mais qui sont vraiment devenues plus importantes pendant la pandémie. Il y a des entreprises de HR, un peu comme ADP, ou ce genre de plateforme de management qui maintient le statut de tous tes employés. Il y en a maintenant qui sont devenus populaires, qui maintiennent tes employés au niveau international. Et donc, ils s'occupent de toute la légalité, des impôts, etc., dans chaque pays où se trouve ton employé. Et toi, du coup, t'es vraiment... Tout ça, c'est abstract, comment on dit pour en français. Et donc, tout le procès, toute la complexité d'avoir une force internationale est complètement retirée de la complexité. Et j'ai lu un article récemment, il y a des entreprises maintenant qui ont pas d'employés, pas de meeting. En fait, ils ont que des mercenaires qui payent à l'heure. Et ils construisent leur logiciel comme un logiciel open source. Donc, il y a des problèmes à résoudre. La personne, elle dit, bah, je m'occupe de celui-là la semaine prochaine. Hop, la personne résout le truc. Une fois que le code est mergé, la personne dit, j'ai travaillé 10 heures là-dessus, voilà. Et donc, il n'y a pas d'employés, c'est que des freelances. Et ils veulent promouvoir la liberté plutôt que être 100% focus, on est une famille, tu vas jamais quitter l'entreprise. C'est vraiment à tel point que tu ne peux pas travailler, non, tu peux travailler plus de 20 heures, mais si tu travailles plus de 20 heures par semaine, ils divisent par deux ton tarif horaire. Donc c'est vraiment, ils veulent que ce boulot-là soit un boulot de côté pendant que tu fais autre chose. Et leur entreprise, elle marche. Ils ont un objectif, c'est de satisfaire leurs clients. Et ensuite, n'importe quoi que tu peux suggérer ou faire pour servir cet objectif, tu le fais. Et tu dis, voilà, j'ai travaillé 10 heures sans ça et ça a augmenté le chiffre de 0,1%. Et voilà. Et si la semaine prochaine, tu n'as pas envie de travailler, tu ne travailles pas. Si la semaine prochaine, tu as envie de travailler un peu plus, tu travailles un peu plus. Et...
Mais d'une certaine manière, ça ressemble un peu à de l'ubérisation.
Ouais, c'est ça, c'est la gig economy des ingénieurs, quoi. Ouais. Et ça marche parce qu'au final, depuis toujours, les ingénieurs, enfin pas depuis toujours, mais depuis des années, les gens travaillent sur des projets open source. Moi, par exemple, je maintiens 3 librairies open source, il y a une liste de problèmes. Si jamais il y a quelqu'un qui vient et qui m'envoie un pull request pour fusionner du code qui résout ce problème-là, je vais juste regarder la qualité du code et dire oui, et voilà, je ne connais pas la personne, le problème a été résolu, je suis content. Et c'est possible d'avoir une entreprise qui fonctionne que comme ça. Il y a des gens qui le font.
Et pour l'employé, ça veut dire pas faire partie d'une entreprise, mais de choisir en fait les projets, le ou les projets sur lesquels ils veulent s'investir.
Ouais, et donc tu peux avoir 3-4 contrats en parallèle, peu importe, du moment que... Et après, c'est l'entreprise, elle va jamais être bloquée par toi, parce qu'ils ont, je sais pas, 2000 employés qui viennent et qui rentrent tout le temps. Et donc, si tu travailles pas pour cette entreprise, tu travailles pour une autre, bon, bah voilà.
C'est surprenant. Mais si je reviens sur le travail remote, et ouais. Ton choix d'être au Luxembourg où finalement il n'y a pas beaucoup de travailleurs locaux et il y a énormément de frontaliers qui viennent travailler, du coup le système de taxes et de travail en remote peut être une problématique pour un employeur. Si un employeur vient vers toi en disant j'ai mon idée de projet, le projet est beau, tu vois qu'il a des chances d'être successful, mais qu'il veut embaucher des talents et que ces talents-là disent seulement si on travaille en remote. Comment tu arrives à adresser ce problème-là ?
Bah, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est cool, ça veut dire que tu n'as pas besoin de payer de bureau, ça veut dire que tu peux embaucher des personnes sur toute la planète, c'est génial. Entre deux entreprises, l'une qui... Imaginons deux entreprises, elles ont le même produit, la même structure, le même fondateur, tout pareil. Mais il y en a une qui doit payer des loyers de bureau et qui se limite à embaucher seulement les personnes qui peuvent venir dans ce bureau. Et ensuite, t'as l'autre entreprise qui paye pas de loyer et qui peut embaucher des personnes sur toute la planète. Qui va réussir, à ton avis?
J'ai mon idée sur la question. Qu'est-ce que tu vois justement comme tendances qui peuvent émerger du travail en remote? Parce que autant on a pu dire les bons côtés du remote, et certains aussi ont pointé peut-être les mauvais côtés du remote, les conférences en virtuel... Peut-être satisfont moins les personnes, il y a plus contact. Enfin, il peut y avoir des choses qui manquent à certaines personnes.
Bah alors oui, mais là on rentre dans un dialogue où il faut vraiment faire attention de quoi on parle parce que le remote dont on a eu l'expérience, c'était un remote de pandémie. C'était pas un remote normal. Parce qu'un remote normal, ça veut dire qu'à 5 heures, quand t'as fini ton boulot, t'as des choses à faire. Tu peux sortir, aller au resto, tu peux passer du temps avec tes enfants. T'es pas bloqué devant ton écran, parce que là, pendant la pandémie, il n'y avait rien d'autre à faire. Pareil, si tu veux faire une conférence remote à l'autre bout de la planète, tu peux, mais si tu veux aller dans le bar du coin et aller faire un meet-up en personne, tu peux aussi. Il n'y a pas de choses qui sont enlevées en étant remote, à part que peut-être tu ne vas pas pouvoir renifler la transpiration de ton collègue tous les matins, quoi. tu ne vas pas pouvoir faire de câlins à ton boss. Je ne sais pas si c'est des choses que les gens manquent, je ne sais pas. Mais... il y a des entreprises qui réussissent de façon remote. Il y a GitLab, la compagnie parente de WordPress qui maintient 80% du web, elle est complètement distribuée aussi. Donc, c'est faisable. Donc, les gens qui disent le remote ne marche pas, c'est pas parce que le remote ne marche pas, c'est parce que peut-être qu'ils ne l'ont pas bien implémenté.
Mais c'est culturel, encore une fois, peut-être. On a pris l'habitude de venir au bureau, d'avoir ses habitudes au bureau et de retrouver ses collègues et d'avoir toujours les mêmes collègues. Là, il y a quelque chose de déstabilisant, de nouveau. Peut-être que la mentalité a pu changer. Au début de la pandémie, c'était plutôt on a hâte de revenir au bureau et après, c'était finalement non.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, au début, les gens, évidemment, ont été déstabilisés par la nouveauté. Les entreprises ont testé plein de choses différentes. Au début, les premiers mois, on avait des réunions de 8h à 19h parce que les gens, ils disaient « comment on fait quand on peut pas parler ?» Et au final, au fur et à mesure que les entreprises ont testé des choses, que les grosses entreprises ont adopté le travail en remote, par exemple Google, Amazon, Facebook, Twitter, Square, toutes les grosses entreprises ont dit « bon, bah allez, on plonge et on fait ça ». Ça a permis de copier ce qu'ils faisaient, etc. Donc ça a pris un an pour qu'on se restabilise. Et maintenant, ça marche bien. T'as un meeting le matin, après tu travailles focus, t'as personne qui va venir t'emmerder au milieu de la journée. Si jamais tu veux parler à quelqu'un, tu lui envoies un message. Par exemple, tout est documenté beaucoup mieux maintenant parce que t'envoies un email, t'as un suivi de la conversation, c'est pas juste dans le couloir et après, deux jours après, t'as plus aucune idée de ce dont t'as parlé. Maintenant, tu peux retourner voir la conversation. Pour moi, il y a énormément d'avantages. Après, évidemment, tout ce qui est serendipity, on vient de se croiser dans les couloirs et on a eu un petit échange qui m'a donné une nouvelle idée. Bon, alors ça va un peu être, ça c'est perdu, mais il y a des moyens de le reconstruire. Il y a plein d'entreprises qui ont commencé à lancer des logiciels où tu es dans un espèce de bureau virtuel avec un avatar et tu entends les conversations quand les gens passent à côté de toi. Donc, il y a moyen de recréer ça. Il y a aussi si on retourne à tout ce qui est la gig economy des ingénieurs, on peut imaginer un futur où, imaginons, il n'y a plus de bureau, tout le monde travaille remote. Et par contre, toi, tu as quand même envie de faire un commute pour séparer ton environnement de travail et ton environnement personnel. Tu peux aller dans un environnement de coworking space local et du coup, tes collègues, au lieu que ce soit des collègues qui travaillent dans la même entreprise que toi, ce sera des collègues qui vont travailler sur d'autres projets, mais tu peux aller lunch avec eux le midi, ça sera tes collègues de coworking space, au lieu que ce soit tes collègues d'entreprise. Et du coup, tu as cette série de parce que tu vas leur dire « Ah, je suis en train de résoudre ce bug, là, j'arrive pas à le résoudre. » Et quelqu'un va dire « Ah bah moi, j'ai résolu ça dans ma boîte la semaine dernière, voici la solution. » Donc c'est ce genre de choses vont pouvoir se répéter. Et je pense pas que ça va... Si on adopte et on plonge dans le full remote, je pense que ça va avoir des bénéfices énormes sur la société.
J'ai l'impression que même dans ce domaine-là, c'est juste qu'on n'a pas trouvé peut-être le bon moyen de l'adresser. J'ai aussi entendu dire qu'on pouvait avoir des stand-up meetings avec des personnes au hasard,
ouais.
Histoire de parler avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de croiser. Et au contraire, moi j'ai l'impression que cette sérendipité, on peut l'avoir à une autre échelle. C'est-à-dire que on est 40 employés dans la boîte et puis... Voilà, c'est limiter le nombre de personnes qui peuvent faire émerger une nouvelle idée. Par contre, si on est dans une boîte de 2000 au travers de la planète et que, de manière totalement aléatoire, je me retrouve avec quelqu'un qui est en Chine le matin pour discuter pendant un quart d'heure, peut-être que là, il y a des nouvelles choses qui vont se créer aussi.
Ouais, j'ai vu pas mal de plugins sur Slack, par exemple, qui font des paires aléatoires ou des trios ou des groupes de quatre. Et c'est vraiment super cool parce que du coup, moi, ça m'est arrivé de parler avec des gens, quant à mon emploi précédent, juste avant la pandémie. Là, ils avaient implémenté ça au milieu de la pandémie. Et du coup, tu parles avec quelqu'un dans le département de la vente que t'aurais jamais rencontré autrement. Et du coup, tu as leur expérience. Donc, ils te disent des choses que les clients leur ont dit. Et après, toi, quand tu retournes avec ton équipe, tu fais « Mais attendez, j'ai entendu dire que il y avait ce truc-là qu'on a implémenté, il y a un bug énorme, personne ne nous l'a dit, ou les gens ont une super idée, allez, on pourrait faire ça. » Donc, c'est possible de recréer cette culture d'innovation.
Ok, pas besoin de construire un loop pour ça.
Ouais.
Il y a une autre chose sur laquelle... cet aspect remote, il m'a l'air moins bien embrassé en Europe qu'aux États-Unis. J'ai entendu dire qu'il y a des boîtes qui, très rapidement, en fait, voyant la pandémie durer, ont rendu leurs locaux très vite. Comme ça, on ne paye plus les locaux et on dit on passe en remote. J'ai l'impression qu'en Europe, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait. La réactivité n'était peut-être pas la même et on a beaucoup plus gardé un bureau qu'on a payé avec pas d'employés dedans.
Ouais, par exemple, à San Francisco, il y a Pinterest, ils ont cassé leur bail, ça leur a coûté quoi, 98 millions, il me semble. Et je crois pas qu'ils soient retournés dans des bureaux, donc ils sont full remote maintenant. C'est aussi la prise de risque, c'est est-ce qu'on y va le tout pour le tout et on voit ce que ça donne. Franchement, t'imagines s'il y avait plus de bureaux, on pourrait faire des choses géniales dans ces quartiers-là.
Ouais. Clairement, et surtout, les bureaux ont toujours favorisé une concentration humaine qui n'est peut-être pas nécessaire et qui n'est peut-être même pas souhaitable.
Bah, qui est peut-être dangereuse aussi au niveau pandémie. À mon avis, on va en avoir plus d'une avant la fin de notre génération.
Ouais. Outre l'aspect pandémie qui est toujours préoccupant, mais même au quotidien, parce que les pandémies, même s'il y en a une tous les 10 ans et que ce n'est pas souhaitable, on n'espère pas vivre en état permanent de pandémie. Par contre, tu avais mentionné pas mal d'autres aspects justement qui t'ont fait quitter San Francisco, qui ne sont pas liés à la pandémie, mais l'insécurité, les violences policières, choses qui ne se retrouveraient pas avec des populations. Tu as parlé des pays nordiques où le nombre d'habitants au mètre carré est dérisoire. Et généralement, c'est vrai qu'on n'entend pas les mêmes choses venant de ces pays-là en termes de violences policières, en termes d'agressions, que dans les endroits très peuplés.
Bah, c'est sûr que plus c'est la loi des grands nombres. Plus c'est comme si c'est un champ quantique avec plein d'opportunités, plus c'est dense, plus il y a de choses qui se passent, quoi. Donc évidemment, il y a des choses négatives qui vont se passer. Après, il y a des avantages aussi à avoir des concentrations de population. Par exemple, tu peux avoir un théâtre, tu peux pas construire un théâtre dans chaque quartier, tu en as un pour le centre-ville. Mais c'est vrai que il y a aussi le fait au niveau de la place. T'imagines si, parce que là, pour chaque individu, tu dois construire deux bâtiments presque, un pour qu'il se loge et un pour qu'il travaille. Si t'enlèves ce logement pour qu'il travaille, ça veut dire que tu peux loger deux fois plus de personnes.
Dans cette culture du remote qui est en train de prendre place dans le domaine de l'entreprise, je pense qu'il y a pas mal de tendances qui vont arriver. Aujourd'hui, tu viens avec ta culture de la Silicon Valley pour aider les entreprises. Comment est-ce que toi, tu vas faire dans l'avenir où justement tu seras peut-être plus éloigné des innovations culturelles, des innovations entrepreneuriales pour rester la personne auxquelles les sociétés vont faire appel pour les aider à pérenniser un business?
Bah justement, maintenant, ce qui est bien, c'est que tout est remote. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'ai été à un meet-up qui se passait à San Francisco et j'ai fait ça de chez moi. Donc, c'est possible de rester in touch avec les nouveautés. Il y a plein de conférences. J'ai été à la Dev Week. Je vais être le speaker à une conférence la semaine prochaine. Donc, mon travail, quand je ne suis pas avec un client, c'est de rester au courant. C'est de la veille technologique C'est mon travail à temps plein, c'est de rester au courant de ce qui se passe pour justement pouvoir servir mes clients le mieux.
Chose qui n'est pas non plus évident. Alors, comment tu fais justement pour faire cette veille technologique et te tenir au courant des tendances et des choses qui pourraient être bonnes ou mauvaises dans ce secteur?
Bah, je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur. j'écoute des vidéos sur YouTube, je vais à des conférences virtuelles, je parle avec des gens, sur mon réseau sur LinkedIn, je suis connecté avec plein de VC et d'entrepreneurs. Il y a les articles de blog sur Medium, il y a les livres. J'utilise Blinkist, qui est une application qui permet d'écouter un livre résumé en 20 minutes. C'est génial. un peu de pub pour eux, parce que franchement, ce qu'ils font, c'est vraiment super. Et du coup, ça permet vraiment de rester au courant de ce qui se fait. J'ai aussi mes amis qui sont à San Francisco, qui me tiennent au courant des bonnes conférences à aller, ce genre de choses. Maintenant vu que j'ai vécu à San Francisco, je suis au courant des bonnes conférences et des conférences un peu chiantes. Et du coup, je peux regarder le replay sur YouTube, par exemple, pour celles qui m'intéressent.
J'ai une dernière question pour toi. Quand on s'était vu la première fois, tu as parlé de comportements émergents et d'enseignements à tirer des comportements émergents. Alors, c'est quoi ces comportements émergents? Enfin, comment on détermine un comportement émergent et qu'est-ce qu'on peut en retirer?
Alors, c'est marrant parce que ça, le comportement émergent, pour moi, c'est relié au multi-agent system, qui est un domaine de l'intelligence artificielle, où chaque agent, chaque entité de l'environnement a un code très très simple, et c'est l'exécution de la multitude de ces agents qui crée un comportement qui n'avait pas été implémenté au début. Alors, par exemple, on voit ce genre de choses dans la nature, par exemple dans les colonies de fourmis. J'ai vu un documentaire où ils expliquent que les fourmis, il n'y a pas de manager qui va lui dire, bon, bah, toi, maintenant, tu vas aller faire du front-end. Les fourmis prennent la décision d'eux-mêmes. Alors, ce qu'ils font pour faire cette décision, c'est un code tout simple. Et je dis un code, c'est leur ADN, j'imagine. Mais bon, c'est un code biologique. Avec les phéromones, ils comptent les jobs qu'ils voient. Donc, ils vont voir des ouvriers, des soldats, etc. Je suis pas un expert des fourmis, mais. Et ils comptent combien il y en a. Et s'ils voient qu'un des jobs est en dessous de ce qu'il devrait être, ils se disent, bon, bah, moi, je vais prendre ce boulot-là. Et toutes les fourmis font ça, ce qui fait que le nombre de jobs est toujours maintenu, peu importe si y a un prédateur qui vient et qui mange la moitié de la colonie, ils vont pouvoir tous se réadapter en fonction de ce qui manque, sans qu'il y ait de manager. Et donc ça, c'est vraiment des règles simples qui créent un comportement émergent, le comportement émergent étant la balance des boulots, des jobs. Après, un autre exemple de vraiment là dans le comportement intelligence artificielle, il y a une simulation qui s'appelle la simulation des termites, qui est très connue. Le code, c'est en tant que termite, si tu te balades aléatoirement, si tu vois un petit bout de bois, c'est une entité au sol, tu la mets sur ton dos. Tu te balades, si tu vois un bout de bois et que t'as un bout de bois sur ton dos, tu le poses à côté. C'est le seul code qu'il y a, c'est franchement 3 lignes. Et quand tu l'exécutes pendant assez longtemps, tu as un seul tas de bois parfaitement circulaire. Et donc, les chercheurs qui sont spécialisés dans ce domaine font vachement d'études sur pourquoi est-ce que ces règles-là créent ce genre de comportement. Et donc là, pour cet exemple-là, c'est assez simple. C'est juste que au fur et à mesure que tu fais des tas, la surface d'échange entre le tas de bois et le monde extérieur devient de plus en plus large. Du coup, il y a de plus en plus de chances qu'un autre bout de bois soit posé à côté. Et donc, tu arrives à un gros tas. Et il est parfaitement circulaire parce que c'est la forme optimale pour optimiser la surface d'échange. Et donc, c'est ce genre de comportement émergent qu'on peut avoir grâce à des règles simples. Et donc, j'ai écrit un article récemment où comment est-ce qu'on fait pour transposer ces idées-là dans l'entreprise. Et donc, on en parlait tout à l'heure de plusieurs règles simples. Par exemple, si tu donnes la possibilité à l'employé de partir avec $4000 le premier mois, il y a le comportement émergent, c'est que ta team d'embauche doit travailler 2 fois plus dur pour pas que ça arrive. Et après ce filtre-là, les employés qui restent sont des employés qui sont motivés. Et c'est une règle toute simple qui a des conséquences larges sur toute l'entreprise. Un autre exemple tout con, par exemple, si le leader de l'entreprise dit c'est interdit d'avoir des meetings entre midi et 1h30. Interdit. Tu peux pas mettre de meeting. Eh ben, les gens qui ont une famille vont pouvoir passer du temps avec eux. Les gens qui veulent apprendre vont organiser des lunch and learn. Les gens vont avoir du temps pour se reposer. Ils vont avoir du temps pour peut-être finir leur boulot dans la dernière demi-heure après avoir mangé. Et pareil, règle toute simple qui a des conséquences sur toute l'entreprise. Et il y a aussi la possibilité aussi d'avoir des règles qui ont l'air toutes simples et on veut bien faire, mais qui ont des conséquences négatives. Alors, par exemple, on peut, on veut que dans le code, il y ait exactement un espace avant le signe égal, mais pas après le signe égal. Et on dit ça à tous les ingénieurs. Et donc là, les ingénieurs, ils vont commencer à se battre, à dire, mais non, mais là, il en faut un. Non, là, il en faut pas. Là, c'est un cas particulier, etc. Ça va allonger le temps de déploiement de semaines. Alors que la seule chose que nous on voulait, c'était un style de code qui soit standard, et on a implémenté la mauvaise règle. La bonne règle, ça serait de l'automatiser, comme ça on n'a pas besoin d'y penser, personne s'en charge pendant le code review, c'est fait automatiquement.
Léo, merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment super intéressant.
Ouais, bah merci aussi Stéphane de m'avoir, c'est super cool, à la prochaine.
Retrouvez Léo sur Twitter, @LéoBenkel, et PureLambda sur purelambda.com. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.